Thank you very much for that beautiful number.
Merci beaucoup pour ce merveilleux morceau de musique. Après le discours de Frère Burton, le chœur chantera « Come, let us anew ». Il sera dirigé par Lynn Hopkins et accompagné par Felipe Dominguez. Ensuite, Sidney Beams fera la prière de clôture. J'ai maintenant le plaisir de présenter l'orateur de ce soir. H. David Burton a été appelé évêque-président le 27 décembre 1995 et il a été soutenu lors de la conférence générale d'avril 1996. Auparavant, il a servi 3 ans comme premier conseiller dans l'épiscopat président et avait été soutenu le 3 octobre 1992. Il avait également été secrétaire de l'épiscopat président pendant 14 ans et officier adjoint du budget de l'Église pendant 1 an. Avant d'être employé dans l'Église, il a travaillé pour Kennecott Copper Corporation et la Commission fiscale de l'État d'Utah. Il a obtenu une licence d'économie de l'Université d'Utah, puis une maîtrise de gestion des affaires de l'Université du Michigan. Frère Burton a servi dans l'Église comme missionnaire en Australie, comme évêque, conseiller d'évêque, membre d'un grand conseil de pieux, président de pieux et selleur au temple. Il est né à Salt Lake City et sa femme, Barbara Matheson, et lui ont 5 enfants. L'un des... Avant de pouvoir venir sur l'estrade, nous avons pu discuter un petit peu. Ils nous ont parlé de leur période de fiançailles. Et il y avait sur le visage de Burton une lumière dans ses yeux et un sourire. J'ai souvent été inspiré par les discours et conseils qu'il nous a donnés dans les conférences générales. Frère Burton.
Merci, Président Schallenberger. C'est un plaisir pour Sir Burton et moi d'être avec vous ce soir, de considérer cette assemblée. Je suis reconnaissant de ce beau cœur de l'Université d'Utah. Ils ont voyagé quelque peu pour être avec nous et ce qu'ils ont chanté était magnifique pour utiliser un dicton écossais. Cela a réchauffé les pointes de mon cœur. Alors, comme le président Schallenberger est aussi sert dans cette mission, et il agrée avec ce que je viens de dire, donc les pointes de mon cœur sont réchauffées. Sir Burton et moi, ainsi que des membres de notre famille, dont 3 étudiants de l'Université Brigham Young, un de l'Université de l'État d'Utah, et une amie, Crystal Bay, qui va à l'Institut de l'Université de Washington, et qui assiste à l'Institut de religion de Washington, sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Barbara et moi aimons beaucoup être associés à la génération montante. Nous aimons votre exubérance. Nous aimons votre fidélité. Nous aimons ce que vous accomplissez dans votre vie et ce que vous accomplirez encore en servant le Seigneur, notre Père Céleste, avec beaucoup de distinction et en vous servant mutuellement. Nous vous aimons pour la vertu et la bonté qui éclairent votre visage et votre présence ce soir. Il y a 2 semaines, Sir Burton et moi assistions à une réunion spirituelle au Temple de Nauvoo pour les servants du Temple, pour la plupart plus âgés de plusieurs générations que la plupart d'entre vous. À cette occasion, nous avons ressenti un esprit merveilleux dans cette sainte maison de gloire. Ce soir, en vous adressant la parole, nous ressentons ce même esprit. Cependant, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois auparavant, vous êtes un peu plus intimidant, assemblé en grand nombre dans ce remarquable édifice et dans de nombreux autres endroits du monde, ainsi que dans ce campus, au moyen du satellite et d'autres technologies. Je n'oublierai jamais la première fois où j'ai pris la parole à une conférence générale de l'Église. Sur mon invitation, il était indiqué que je devais parler pendant 14 minutes de la session du dimanche matin à la suite du président Hunter. Inutile de vous dire que j'étais dans des circonstances très intimidantes. À peu près une semaine avant la conférence générale, Russell M. Nelson m'a demandé comment mon discours progressait. J'ai confié à Frère Nelson que j'avais des difficultés à me préparer, et je me suis alors rendu compte que la seule raison qu'il voyait pour que je prenne la parole était que, sur son invitation, il était indiqué qu'il devait parler après moi. Armé de ce petit renseignement vital, j'ai eu l'audace de demander à Frère Nelson pourquoi quelqu'un d'aussi nouveau et effrayé que moi était placé entre le président Hunter et lui. Il a réfléchi un instant, puis avec cette lueur toujours présente dans les yeux de Frère Nelson, il a dit, « Frère, la seule raison que je vois est que vous avez été placé ici par inspiration pour nous mettre en valeur. » Mon niveau d'effrayement, d'effrayeur et d'intimidation s'est élevé d'encore d'un cran. Il y a une cinquantaine d'années, juste avant ma mission en Australie, j'ai eu la grande bénédiction de travailler pour environ 4 ans dans un magasin de golf pour un professionnel écossais exceptionnel qui s'appelait Alex McCafferty. Il n'était pas de notre Église, et bien qu'ayant vécu plus de 25 ans parmi les saints des derniers jours, il ne comprenait pas vraiment notre doctrine de l'Évangile. C'était un employeur remarquable, et je serai toujours reconnaissant de sa générosité et de sa gentillesse. Il m'a aidé avec beaucoup de patience, ce qui m'a aidé à réussir quelques compétitions dans ma jeunesse et m'a aussi aidé à apprécier le golf comme distraction pendant ma vie entière en m'enseignant passionnément les subtilités de ce jeu. Il avait un langage très coloré, mélangé à un fort accent écossais. Lorsque mon travail décevait les attentes d'Alex, ou quand je faisais une erreur en servant un client, il exprimait un juron d'une voix douce, mais ferme, teintée d'écossais, puis posait la même question. « David, mon garçon, te débrouilleras-tu un jour tout seul ?» Je me rappelle encore les mots exacts qu'il a utilisés quand, ayant enfin rassemblé mon courage, je lui ai appris que j'avais accepté l'appel en mission en Australie que m'avait lancé un prophète de Dieu pour 2 ans et que donc je démissionnerais. Cette fois-là, la réponse a été précédée de plusieurs jurons. Puis il a déclaré, « David, mon garçon, tu t'en sortiras jamais tout seul en te promenant partout dans le monde à parler de religion. » Un jour ou deux avant mon départ en mission, je suis passé dire au revoir à mon vieil ami Alex. En me serrant la main et en m'exprimant sa satisfaction, il m'a attiré vers lui et a mis une enveloppe dans la main. Nous avions tous les deux les larmes aux yeux quand je suis allé rapidement vers ma voiture. Quelques minutes après, j'ai conduit et me suis arrêté à un parc tout proche, et dans ce cadre isolé, j'ai lu son mot, et j'ai découvert qu'il avait mis une somme importante pour m'aider à financer ma mission. Environ une année plus tard, alors que j'étais à Adélaïde, en Australie, j'ai reçu un mot d'Alex. Il disait, « David, mon garçon, on m'a dit qu'un missionnaire a besoin d'un nouveau costume au bout d'un an. S'il te plaît, avec cet argent, achète-toi un costume de la meilleure laine d'Écosse. » Quelques jours après mon retour d'Australie, je me suis arrêté à côté du terrain de golf pour refaire connaissance avec Alex. Il m'a demandé si j'étais prêt à faire un parcours de golf. Je lui ai dit que je ne faisais plus sérieusement du golf et que j'avais vendu mes clubs et ma voiture pour rembourser en partie les dépenses de ma mission et qu'en plus, il était plus que temps que je m'occupe sérieusement de mes études. Il m'a répondu en commençant par le juron habituel, « David, mon garçon, tu ne t'en sortiras jamais si tu ne joues pas au golf. Tu vas immédiatement au magasin de golf et tu prends un jeu de club de ton choix. » C'est ce que j'ai fait. Et 50 ans après, j'ai encore ces clubs. Bien sûr, je n'appréciais pas le langage haut en couleur d'Alex, mais je serai toujours reconnaissant des leçons d'honnêteté, d'intégrité, de générosité que j'ai apprises en travaillant pour lui. Au cours de ces années, j'ai souvent réfléchi à la question d'Alex. Te débrouilleras-tu un jour? Alex exprimait à sa manière sa contrariété à mon sujet. Il doutait de ma capacité de suivre des directives, de mon attention à ce que j'étais en train de faire et de mon engagement professionnel. Il se demandait aussi si j'avais le désir de réussir, d'être productif et de collaborer dans ma vie d'adulte. J'ai souvent médité sur ces questions. À nouveau, et plusieurs fois, je dois admettre qu'on doit mettre encore l'étiquette « travail en cours » sur mon compte. Je suis arrivé à la conclusion qu'Alex se posait des questions sur les accomplissements de la vie et non sur le parcours de la vie. Cependant, cela amène la question « qu'est-ce que la réussite dans la vie? » Il est bon de se demander non pas si nous ferons quelque chose de nous-mêmes, et donc si nous réussirons aux yeux du monde, mais plutôt de se poser la question du Sauveur, comme il l'a dit lui-même. C'est pourquoi, quelle sorte d'homme et femme devriez-vous être? Vous vous souviendrez que la réponse fut, selon ses propres termes, « En vérité, je vous le dis, tel que je suis. » Le Sauveur a précisé par la suite, « Faites ce que vous m'avez vu faire. » Quelle sorte d'homme et de femme devriez-vous être? Quand je médite, je me demande continuellement, quels sont les attributs d'une vie chrétienne? Quel est le bon modèle à suivre pour surmonter les difficultés de la vie? Que signifie être comme il est? Il est certain que je ne sais pas tout ce qui est attendu de nous, mais des attributs tels que l'amour de Dieu et de nos semblables, la compassion, l'exemple, l'obéissance, le service et le respect des alliances en sont peut-être quelques-uns. Récemment, une de nos connaissances, amie chère de notre fille et de notre gendre, est décédée après avoir lutté longtemps et avec courage contre une tumeur au cerveau. Juste avant son décès, un ami a envoyé une poésie à la femme de notre amie pour exprimer ce qu'il ressentait. Avec leur permission, je vous livre son contenu, non pour ses qualités littéraires, mais pour les sentiments exprimés. Le voici. Chère Diane, veuille dire merci à Harold, car il a changé ma vie et m'a montré l'exemple d'un dirigeant de la prêtrise, de quelqu'un qui s'occupe de son prochain, d'un serviteur généreux et infatigable, et d'un véritable amour chrétien. S'il te plaît, veuille dire à Harold les nombreux souvenirs que j'ai chaque jour, qui me renforcent et me guident, des souvenirs qu'il m'a donnés quand j'ai servi avec lui. S'il te plaît, veuille dire à Harold combien son exemple de mari plein d'amour, de bon père et de fidèle serviteur du Seigneur, plein d'humour, plein de vision, m'a donné un idéal vers lequel tendre et a fait du bien à ma femme et à nos enfants. S'il te plaît, veuille dire à Harold que cela a été un grand honneur pour moi de le connaître dans cette vie terrestre et d'avoir servi avec lui. S'il te plaît, veuille dire à Harold les larmes que j'ai et la peine de mon cœur de savoir qu'il va bientôt partir faire rapport à Dieu. S'il te plaît, veuille dire à Harold que je l'aime pour sa bonté, son exemple et son amitié. S'il te plaît, veuille dire à Harold qu'il me manquera, mais que je me préparerai avec impatience à me réjouir de nouveau avec lui dans les demeures célestes du Dieu Très-Haut. S'il te plaît, veuille dire à Harold que je servirai le Seigneur de tout mon cœur, de tout mon esprit et de toute la force en mémoire de son exemple, de sa consécration et de son dévouement vers le Seigneur. S'il te plaît, veuille dire à Harold merci. Les qualités de s'il te plaît veulent dire à Harold valent d'être intégrées à notre vie. Quand on peut nous attribuer des qualités telles que l'exemple, la puissance dans la prêtrise, le souci de son prochain, l'amour d'un mari et d'un père, la bonté, l'amitié, le dévouement, la consécration, comme elles l'ont été à Harold, notre vie peut certainement être dite chrétienne, donc pleine d'accomplissement et de réussite. Le président Monson parle souvent de son héritage écossais et des expériences de jeunes garçons qui habitaient à proximité de ses grands-parents, tantes, oncles et cousins écossais. Je me demande combien de fois il a entendu quelque chose du genre « Tommy, mon garçon, est-ce que tu penses que tu vas un jour y arriver ?» J'imagine qu'en garçon, aux intérêts divers, à l'esprit très créatif et imaginatif et doté d'une grande quantité d'énergie, on lui a peut-être posé quelquefois cette question. La vie du président Monson nous donne un modèle à suivre dans notre propre vie. C'est surtout vrai dans ce que j'appelle son ministère personnel. Son ministère public est un livre ouvert, plein de services exceptionnels dans la paroisse, le pieu, la mission et l'Église en général. Je doute qu'il y ait eu quoi que ce soit, qui que ce soit dans cette dispensation de plus consacré à chacune de ses responsabilités ecclésiastiques que le président Monson. De temps en temps, nous avons un aperçu de son ministère privé, le service, la sollicitude, la main tendue, l'attention envers chacun, les encouragements et le réconfort. Tout cela fait partie intégrante de son ministère privé. Récemment, une gentille voisine a dû faire un bref séjour dans un service de rééducation. Quand Barbara et moi lui avons rendu visite, elle était impatiente de nous dire que le président Monson était passé lors de leur réunion de Sainte-Seine. Il était si près, a-t-elle dit, que j'aurais pu tendre la main et le toucher. Comme elle était ravie de voir que le président de l'Église se souciait d'elle. Le président Monson vit selon le credo qu'il enseigne souvent. Les cinq mots les plus importants de notre langue, en anglais, sont « Je suis fier de toi ». Les quatre mots les plus importants sont « Quel est ton avis ?» Les trois les plus importantes sont « S'il te plaît ». Les deux les plus importants sont « Merci beaucoup ». Le moins important est « Je ». Le Sauveur employait souvent des paraboles pour faire passer des leçons importantes. De même, le président Monson adore utiliser des histoires pour illustrer ses enseignements. Le président Herring, en pensant à l'usage que fait le président Monson de ces histoires, a dit qu'on se dit bien qu'on a déjà entendu l'histoire, mais que si l'on est patient et que l'on écoute attentivement, on se rend compte que les histoires ne sont pas les mêmes, parce que l'esprit incite à recevoir le message d'une manière différente. L'une des histoires qu'il utilise vient du temps où il était diacre. Lui et les autres membres de son collège avaient été désignés, semble-t-il, pour être des Esquimaux dans le roadshow de sa paroisse. Sa sœur, celle du président Monson, jouait le rôle de Madame Liberté. Quand sa sœur a contracté une forte laryngite au moment de la représentation, on a craint qu'elle ne puisse pas dire ses répliques et que cela gâche le spectacle. Les Esquimaux ont décidé de faire quelque chose. Ils se sont réunis dans une pièce du sous-sol de leur église et ont prié à genoux. Ils ont demandé que l'Esprit du Seigneur intervienne en faveur de la sœur du président Monson. Au moment prévu, Madame Liberté a pu dire ses répliques d'une voix claire. La sœur de président Monson dit que cette expérience a été un miracle dans sa vie et qu'elle a été reconnaissante aux Esquimaux. Cette histoire toute simple nous rappelle que le président Monson a toujours été une personne d'une grande foi et qui prie beaucoup. Il utilise ses grands dons pour faire du bien à beaucoup de personnes aujourd'hui. Un exemple du genre d'homme et de femme que nous devrions être, ce sont des personnes qui ont la foi et des personnes qui prient. La prière est essentielle à notre force et à notre conviction personnelle. Rappelez-vous la question de Néphi à ses frères incrédules. Avez-vous interrogé le Seigneur? La vie du président Monson est un modèle de service que nous pouvons utiliser pour définir et structurer notre propre vie. Beaucoup parmi vous sont à une étape de la vie où ils vont prendre des décisions qui façonneront leur vie terrestre aussi bien que leur vie éternelle. Certains sont en train de prendre des décisions dans le domaine des études. D'autres envisagent une mission. Beaucoup essayent de décider ce qu'ils vont faire comme métier ou comme carrière. Peut-être que certains sont en train de se demander si telle ou telle est la personne qu'il leur faut comme conjoint éternel. Ces décisions seront beaucoup plus faciles à prendre si on le fait devant le Seigneur dans la prière. Quelques-uns parmi vous sont peut-être occupés à se débattre dans le péché, essaient de décider s'il va être purifié par le pouvoir expiatoire de Jésus-Christ. Certains vacillent peut-être dans leur témoignage de l'Évangile et essayent de décider ce qu'ils peuvent faire pour inverser la tendance. Les décisions sur ces questions et sur d'autres sujets importants auront un impact énorme sur le genre d'hommes et de femmes que vous serez et sur ce que vous accomplirez pendant votre vie, ou pour utiliser les termes de mon ami Alex, ce que vous ferez de vous-même ou comment vous vous débrouillerez. Ces décisions critiques qui formeront votre vie sont habituellement très difficiles à prendre. Il y a toujours ces petits « si » et « ou mais » qui ont tendance à compliquer et retarder la réponse. Que n'avons-nous une potion magique que nous pourrions pulvériser pour faire apparaître automatiquement la meilleure décision? Mais à défaut de potion magique, puis-je vous proposer juste une suggestion pour vous aider à la prise de décision? Demandez, recherchez la participation de notre Père Céleste par une humble prière, puis ayez la foi et la détermination pour suivre ce qu'il vous conseille par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous demande d'étudier les choses dans notre esprit et puis de lui demander. Il promet, je cite, « Je ferai en sorte que ton sein brûle au-dedans de toi. C'est ainsi que tu sentiras que c'est juste. » Fin de citation. Le genre d'hommes et de femmes que vous deviendrez sera meilleur si vous écoutez et obéissez au murmure doux et léger. N'oubliez pas qu'écouter, c'est entre autres sentir que c'est juste. Aux États-Unis, nous venons de terminer une autre saison de baseball. Les championnats se sont terminés avec le couronnement d'un nouveau champion. Il y a plus de 50 ans, un excellent athlète quitta le terrain des Boston Red Sox. Sa carrière de baseball fut interrompue à deux reprises au moins par l'appel à servir dans l'armée de l'air comme pilote de chasse. Les médias l'avaient surnommé Splendid Splinter, c'est-à-dire la belle écharde, parce qu'il était fin de stature, mais frappait bien la balle. Sa renommée sportive, bien établie, lui venait de ce qu'il était le dernier joueur majeur de la Ligue à avoir une moyenne de frappe à la batte de plus de 40% pour toute l'année. Ce qui veut dire qu'il réussissait à parvenir à la base parce qu'il frappait la balle plus de 4 fois sur 10 balles lui parvenant quand il était à la batte. Personne ne l'a surpassé pendant le demi-siècle suivant. Le nom de ce joueur était Ted Williams. De nombreuses années après la fin de sa carrière, le public a appris quelque chose de très intéressant sur la vision de Ted. Elle dépassait 20 sur 20 ou 10 sur 10 selon les pays. Apparemment, du fait de cette vue excellente et extraordinaire, Ted avait le petit avantage de mieux voir la balle que les autres joueurs et de disposer d'une microseconde de plus pour déterminer son mouvement de batte. Il pouvait voir si la balle tournait ou arrivait en courbe. Nous qui avons été baptisés et reçu le don du Saint-Esprit comme compagnon constant, avons également un avantage quand vient l'heure de prendre une décision difficile. Tout comme le succès en immobilier, c'est l'emplacement. De même, profiter du Saint-Esprit, c'est écouter. Je m'inquiète parfois et je suis un peu embarrassé. Très franchement, que ma génération ait chargé la vôtre de problèmes, de difficultés que nous aurions dû résoudre. Bien que beaucoup de progrès aient été faits pour rendre la vie meilleure, plus longue, plus sûre et plus féconde, il reste beaucoup à déplorer concernant la cupidité, les relations et l'environnement, pour n'en citer que quelques-uns. Nous affrontons les incertitudes qui découlent des temps agités dans lesquels nous sommes. Il pourrait nous être facile d'être découragés et peut-être même un peu déprimés de devoir affronter les temps économiques et politiques perturbés qui nous attendent. Les incertitudes du marché du travail auxquelles s'ajoute une dislocation ou une délocation économique importante, tout cela ne vient que renforcer le malaise du jour. Les nations continuent à se battre entre elles. Malgré tout cela, nous n'avons pas à craindre, ni à agir sous l'empire de nos craintes. Les Écritures nous rappellent que si nous sommes préparés, si nous sommes obéissants, et si nous sommes membres de l'Église du Seigneur, nous n'avons pas à craindre ce que l'avenir nous réserve. Les justes n'ont rien à craindre. Le genre d'hommes et de femmes que nous serons sera influencé, entre autres, par l'efficacité avec laquelle nous gérons les aspects effrayants et imprévus de la vie. Conscient de ce que la vie réelle est constituée de combats, de problèmes, d'erreurs, d'occasions et de leçons, n'oubliez pas, s'il vous plaît, le vieux proverbe chinois. Une gemme ne se polit pas sans frottement, et l'homme ne peut être rendu parfait sans épreuve. Ou pour le dire dans les termes du Seigneur, il doit nécessairement y avoir une opposition en toute chose. Malgré les incertitudes et les imperfections du monde, il y a tant de choses dont nous pouvons être reconnaissants et qui sont passionnantes. Je suis un optimiste. Je trouve que 2008 est un moment merveilleux à vivre et que c'est une bénédiction sublime dans l'histoire du monde et d'être membre de l'Église du Royaume de Jésus-Christ. Cela me donne la chair de poule de voir comment l'Évangile s'établit dans le cœur et dans l'esprit des enfants du Père partout sur la terre. Je pense que quasiment aucun d'entre vous ne sait ce qui se passe au siège de l'Église le premier vendredi de décembre de chaque année. C'est le jour traditionnellement consacré à la réunion du Conseil pour l'affectation de la dîme, comme le Seigneur le commande à la section 120 des Doctrines et Alliances. Sous la direction de la première présidence du Collège des Douze et de l'Épiscopat président, qui se réunissent ensemble pour décider comment les ressources de l'Église seront utilisées l'année qui suit. C'est enthousiasmant de voir les nombreux lieux de culte qui se construisent. Le nombre de nouveaux temples qui continuent à grandir. Les évêques du monde entier reçoivent les ressources pour rechercher et aider les pauvres. Les missionnaires de plus de 350 missions sont soutenus. Les projets pour accélérer l'œuvre des temples sont approuvés. Des fonds sont mis de côté pour faciliter les études supérieures et l'éducation religieuse. L'œuvre du Seigneur va de l'avant pour réaliser son destin prophétique. Cela me donne du courage de penser à la grande déclaration de foi faite par le prophète Joseph. Vous vous en souviendrez, je cite, « Aucune main impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. » N'est-il pas passionnant de vous rendre compte que vous et moi aurons l'occasion d'être au premier rang du miracle qui est destiné à se produire? Le genre d'hommes et de femmes que vous serez dépendra en partie du dévouement et de l'aide que vous apporterez pour faire avancer son royaume. En même temps que le dévouement, il faut beaucoup d'autodiscipline. Jim Rohn, conférencier bien connu sur la motivation, a dit « La discipline est le pont entre les buts et l'accomplissement. » Pensez-y un moment. La discipline est le pont entre les buts et l'accomplissement. J'aime la musique sacrée, en particulier les cantiques de louange ou de motivation. Un de ces cantiques que nous chantons souvent est « Come let us anew ». Les paroles ont été écrites dans les années 1700 par Charles Wesley. La musique est attribuée à James Lucas. L'excellent chœur de l'Institut d'Université d'État d'Utah a chantera ce beau cantique pour nous ce soir. Les saints des derniers jours se réunissent pour des réunions de Sainte-Cène, des réunions spirituelles comme celle-ci et d'autres occasions pour chanter, prier, renouveler des alliances et l'engagement aussi bien que s'encourager mutuellement. Quand nous nous réunissons, nous produisons un renouvellement de type synergique. La musique joue un rôle important dans ce processus. Elle peut apaiser notre âme et sensibiliser notre esprit aux choses célestes. Le Seigneur nous a rappelé que le chant des justes est une prière pour moi. Faites attention aux paroles de son cantique d'encouragement. Venez, poursuivons de nouveau notre voyage. Avançons avec l'année. Et ne nous arrêtons jamais jusqu'à ce que le Maître apparaisse. Accomplissons avec joie sa volonté adorable. Et cultivons nos talents par la patience de l'espoir et l'œuvre de l'amour. Notre vie, comme un rêve, notre temps comme un fleuve, s'écoule rapidement. Et le moment fugitif refuse de rester, car la flèche est tirée et les moments sont partis. L'année millénaire approche à nos yeux. Et l'éternité est ici. Ah, que chacun au jour de sa venue puisse dire, j'ai mené le bon combat, j'ai fini l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Ah, puisse chacun de son Seigneur recevoir la joyeuse parole, c'est bien et fidèlement fait. Entre dans ma joie. Et assieds-toi sur mon trône. Le message d'encouragement donné dans ce cantique est clair. Il dit que dans notre recherche pour devenir comme le Seigneur l'a suggéré, tel que je suis, nous devons souvent renouveler notre enthousiasme et ne jamais nous arrêter dans nos bonnes œuvres jusqu'à ce que le Maître apparaisse. Si nous tardons, le temps fuira et le moment fugitif sera parti pour toujours. Chacun de nous, au jour de sa venue, voudra dire « J'ai mené le bon combat, j'ai fini l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et quel sentiment nous aurons quand nous entendrons la réponse « C'est bien et fidèlement fait. Entre dans ma joie et assieds-toi sur mon trône. » C'est ce qui peut nous arriver si notre objectif est d'être le genre d'hommes et de femmes que le grand « Je suis » nous demande d'être. Souvent, les membres de notre Église sont examinés de matière critique et on attend d'eux un mode de vie plus élevé que nos amis des autres cultes ou fois. Avez-vous remarqué que souvent, quand ils rapportent des informations, les médias ont recours à des titres tels que « Un évêque mormon commet »,« Un ancien missionnaire mormon impliqué dans », »,« Une mère mormone mise en examen pour », ce que nous faisons en privé est tout aussi important que ce que nous faisons dans le processus public quand il s'agit de modeler notre vie sur le Sauveur. Il y a souvent des yeux qui nous observent à notre insu. À bien des égards, nous vivons dans des maisons de verre. Il y a quelques mois, je réparais une canalisation d'eau brisée. Pendant que je travaillais, mes vêtements sont devenus mouillés, boueux, et j'ai eu les bras couverts de graisse. C'est alors que je me suis aperçu que j'avais besoin d'une pièce pour réparer la canalisation, et plutôt que de prendre le temps de me nettoyer, j'ai sauté dans la voiture et suis allé au magasin de bricolage, Home Depot. Pendant que j'examinais soigneusement l'éventail des pièces pour être sûr d'acheter la bonne taille avec le bon filetage, un inconnu est passé dans le couloir derrière moi. Après qu'il m'ait dépassé, je l'ai entendu dire « Il ne m'a pas l'air d'être l'évêque président ». J'ai été terriblement embarrassé parce que je n'avais pas été à la hauteur de ce qui était attendu de moi. Cette fois-ci encore, je me suis demandé de façon critique, « David, mon garçon, te débrouilles-tu un jour? Vas-tu finir par apprendre? » L'ambition et le travail dur sont des ingrédients essentiels si l'on veut atteindre des objectifs de valeur. Vous êtes une génération qui a de grandes promesses, dotée de beaucoup de dons venant de Dieu. Vous êtes intelligent. Ceux de vous qui utilisent leur intelligence pour réaliser des buts bien conçus sont destinés à réussir. Ceux qui sont intelligents, qui ont un but et sont ambitieux, seront vraisemblablement le genre d'hommes et de femmes sur lesquels notre Père Céleste compte pour faire avancer son royaume. Salvador Dali, peintre espagnol, nous rappelle « L'intelligence sans l'ambition, c'est comme un oiseau sans ailes. » Vers la fin de ma mission, on a organisé la Coupe du monde de golf au Club Royal de Golf de Melbourne, et on a donné aux joueurs de golf amateurs l'occasion de jouer avec un professionnel dans les parcours d'entraînement qui l'ont précédé. Le dernier jour de ma mission, j'ai pu participer à ce parcours d'entraînement, mais je ne vous ennuierai pas avec les détails de la façon dont cela s'est produit. Quand cela a été mon tour de tirer du chapeau le nom du professionnel avec qui j'allais jouer, j'ai tiré le nom d'Arnold Palmer. Quand on dit que c'est intimidant de parler à la conférence générale, bien entendu, c'était en comparaison bien peu. Quand j'ai vu ce nom sur mon petit bout de papier, je n'avais pas eu de club de golf entre les mains depuis plus de 2 ans et j'étais totalement stressé. Comme aujourd'hui. Je ne me rappelle pas grand-chose de ce parcours, si ce n'est que j'ai très mal joué. Au 17e trou, nous étions au tee shots. Nous avons fait quelques mètres et j'ai fait mon 2e tir. Et tout de suite après mon 3e, avant que nous n'en arrivions finalement à la balle de M. Palmer, le jeune Australien qui tenait le caddie pour M. Palmer, essayait de toutes ses forces de lui plaire. Je l'ai entendu lui dire que du côté gauche, le terrain, la topographie du terrain était en pente avec un ruisseau caché à la vue. Il a dit ensuite que du côté droit, l'herbe était très longue et qu'il était difficile d'y frapper la balle. Monsieur Palmer, avec beaucoup de précision, a remis son club dans le sac et a dit calmement, sans élever la voix, mais très fermement au jeune caddie, ne me bourre pas le crâne de ce qui est du côté droit, et je ne suis pas vraiment intéressé par ce qui est du côté gauche. Le seul renseignement dont j'ai besoin de toi, c'est la distance exacte entre cette balle et le drapeau sur le green. Eh bien là, j'ai appris quelque chose de puissant. J'ai réalisé de façon critique l'importance de se focaliser et de ne pas se laisser distraire par ce qui est du côté gauche ou du côté droit. La concentration est si essentielle pour atteindre nos buts. Trop parmi nous se préoccupent de ce qui est du côté droit et de ce qui est du côté gauche et ne se concentrent pas suffisamment sur l'objectif qui est juste au milieu. Quand nous ne nous concentrons pas sur les bonnes choses, il est difficile de devenir le genre d'hommes et de femmes que nous voulons vraiment tellement être. N'oubliez pas dans cet effort, dans cette entreprise, ce que le Seigneur a promis. J'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur, et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. Je prie pour que nous nous focalisions sur ce qui a le plus d'importance dans nos vies. Je témoigne que nous sommes en mission pour le Seigneur. Nous sommes bénis d'être guidés par des prophètes vivants. J'ai été béni d'avoir servi sous la direction de 4 prophètes dans cette dispensation. Je pense en savoir un petit peu en ce qui concerne les prophètes et témoigne que Thomas Spencer Monson est un prophète de Dieu dans tous les sens du terme. Je sais que nous avons un Père céleste aimant et vivant. Nous sommes ses fils et ses filles. Je suis reconnaissant pour son Fils unique, notre Sauveur, qui a expié pour nos péchés. Vous tous, qui vous sentez peut-être perdus, ou qui avez le sentiment qu'il n'y a plus d'espoir, ou pour vous, dont le péché a entravé la progression, je vous témoigne que son expiation vous est accessible et que sa miséricorde dure à jamais. Je sais que Joseph Smith était le prophète du rétablissement. Je saisis cette occasion pour appeler les bénédictions du ciel sur chacun de vous. Cette bénédiction, je l'appelle avec la prière que vous répondiez de façon positive et soyez déterminés à être le genre d'hommes et de femmes que notre Père Céleste désire que vous soyez, et je le fais par l'autorité dont je suis investi et au Saint-Nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Amen.